scientologie. Secte.
Ok.
Tom Cruise, que c'est une secte, une religion, une nouvelle religion, mais qui est tendance sectaire.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec joie que je me réjouis d'arpenter une fois de plus avec vous les sentiers du gai savoir, des sentiers qui sont parfois dangereux. Aujourd'hui par exemple, en zoomant sur l'une des sectes les plus puissantes au monde, nous longeons un véritable précipice, si bien que je suis très inquiet pour les membres de l'équipe qui auraient des problèmes oculaires, voire qui seraient si bigleux que leur surnom dans l'intimité serait Topinette. Ah ! On a déjà perdu Manon.
Oh bah merci.
Oui, aujourd'hui nous allons zoomer sur l'église de Scientologie. Vous me connaissez, je suis pas du genre à m'envoyer des fleurs. Ma patronne Adèle Vendrette le fait très bien pour moi. Mais l'utilisation de cette musique évocatrice bien sûr d'une secte chelou au rite inquiétant est d'autant mieux choisie qu'elle est aussi la BO d'Eyes Wide Shut, le film de Kubrick avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Quentin, votre réaction ?
Vous êtes un génie, vous m'entendez ? Il n'y a qu'un génie 100% pour avoir des idées pareilles.
Plus 1 dans le quiz pour cette excellente réaction, Quentin. Vous êtes décidément mon meilleur disciple. Donc aujourd'hui, on va vous dévoiler tous les secrets de la Scientologie, une secte terrifiante, mais pas autant que celle qui inquiète chez nous, la Miviludes, section Val-de-Marne. Les Baudriers de Gaïa, fondés par le charismatique leader Ghislain Fontana, réalisateur de Zoom Zoom Zan et dont le père, aujourd'hui en prison, avait déjà fait la une de l'actu lors de son arrestation 2023, qui avait abouti au démantèlement de la célèbre secte tantrique d'Ivry-sur-Seine. Avec papa, j'étais à bonne école, nous a confié Ghislain, la larme à l'œil, lui qui règne aujourd'hui sur une cinquantaine de fidèles, essentiellement des personnes fragiles, à qui il a promis, selon leur désir, soit qu'ils se réincarneraient en oiseau, 10 000 euros, soit qu'ils trouveraient l'amour, ça c'est 15 000 euros. Au plus crédule, il a même promis, je cite, qu'il connaîtrait une grande carrière de comédien ou de comédienne, 20 000 euros. Certaines qui avaient mal lu l'écriteau à l'entrée et pensaient arriver chez un opticien sont tombées dans le panneau.
Le cher, oh bonne mère.
Attention Manon, avec votre vue qui baisse, désormais vous faites partie des personnes fragiles que les sectes ciblent. Alors équipez-vous vite de votre désormais indispensable binocle. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Ah là là. Noël. Bonjour Gaëtan Pouliot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous Gaëtan, vous êtes journaliste à Radio-Canada, vous êtes d'ailleurs en duplex avec nous depuis les studios de Montréal et vous êtes l'auteur d'une série de podcasts consacrés à la scientologie intitulée Infiltration chez les scientologues. Ça fait 15 ans que vous travaillez sur cette organisation, vous allez nous en dévoiler tous les secrets, juste le temps de vous présenter ceux dont j'ai déjà esquissé un portrait assez flatteur. Ouais. On va donc faire court, Manon Mariani alias Topinette, Quentin lui alias Padawan Fayot, bonjour.
Bonjour.
Allez bonjour.
Bonjour à tous, vivement que j'ai des lunettes, hein. ça oui, vous amusera oui. En plus.
Ah bah, quand vous aurez des lunettes, je peux vous dire
ça va être drôle.
Ça va être le running gag quotidien.
Vous êtes un génie.
Ouais, on vous le dit pas. Le dire une deuxième fois, c'est important. Maintenant, chaque après-midi, si toutefois vous trouvez vos lunettes, sinon c'est peine perdue, vous nous adressez une petite pièce jointe.
Et aujourd'hui, un acteur, bon, la devinette va être facile, c'est une star. Il a joué et produit l'une des franchises d'action les plus connues au monde. Il n'est pas très grand. C'est un détail. Ah. Et surtout, c'est l'un des scientologues, évidemment, les plus connus au monde.
Depuis quand on juge une personne par sa taille ?
Je sais pas, mais moi, je suis
choqué.
C'est la petitophobie ?
Vous le faites tous les jours.
Ouais, c'est vrai.
Je vois pas de quoi vous parlez.
Avec moi, et je suis plus grand que lui, je crois.
Alors ne dites pas
n'importe quoi,
Quentin.
Non, mais je suis plus grand que la personne dont vous allez parler.
Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous connaissez forcément l'église de la Scientologie, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Quentin est allé vous poser la question dans la rue.
Plus que dans la rue, devant l'église de Scientologie du Grand Paris à Saint-Denis, si vous êtes allé voir des concerts au Stade de France, vous êtes forcément passé au moins une fois devant ce bâtiment intrigant. La Scientologie complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Raël pour les Raéliens, Ghislain pour les Baudriers de Gaïa, toute secte à son leader. Vers 16h30, nous partirons à la découverte de Ron Hubbard, le romancier fasciné par les petits hommes verts et l'ésotérisme qui a fondé la Scientologie. Un type, vous verrez, encore plus barré que notre Fontana. Juste avant 17h, lui aussi est complètement barré, mais il nous régale chaque vendredi en se foutant de nous. François Rollin viendra nous livrer son bilan hebdomadaire de Zoom Zoom Zen. Après 17h, vendredi oblige, on passera en mode Zoom Zoom Back direction 1963. Aujourd'hui, on reviendra sur l'assassinat de Kennedy et comment Lee Harvey Oswald aurait pu être arrêté si Cyril Lacarrière, qui était le garde du corps de JFK, ne s'était pas bêtement assoupi après un trop gros donut. Mais d'abord, Gaëtan Pouliot, zoom donc sur cette mystérieuse église de la Scientologie. Déjà, comment on fait pour infiltrer une organisation qui est par essence hostile aux médias ?
Oui, c'est-à-dire que les scientologues ne peuvent pas parler aux médias, ne peuvent pas parler aux journalistes. Et en 15 ans d'enquête sur l'organisation, j'ai fait plusieurs reportages. Et à chaque fois, c'est la même chose. On envoie des courriels, on appelle, on tente d'avoir des réponses. Et c'est très difficile. Et on nous envoie souvent un courriel, un email laconique pour nous répondre. Et cette fois-ci, on voulait aller au-delà des apparences, aller au-delà de la belle façade de l'Église de Scientologie. Donc, on a créé un personnage, le personnage de Pierre. Et ce Pierre, finalement, disait avoir un trouble bipolaire, diagnostiqué, être suivi par un psychiatre et être médicamenté. Donc, on a monté vraiment un scénario avec Pierre. On l'a muni de micros cachés, de caméras cachées, et on l'a envoyé dans une des églises de Scientologie, celle de la ville de Québec. Et le but était vraiment de documenter comment l'Église de Scientologie accueille des gens qui ont des troubles de santé mentale. Quels services on va leur offrir? Donc, on est parti sur cette infiltration. On ne savait vraiment pas où ça allait nous mener. On avait bien sûr une carte routière, si vous voulez. On savait un peu ce qui se passait à l'intérieur. Mais une fois que l'infiltration est démarrée, c'est vraiment un saut dans le vide. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il faut dire que lorsqu'il y avait l'infiltration, on envoyait Pierre à l'intérieur de l'église, mais nous, la réalisatrice Sophie Lambert et moi, on était à l'extérieur, on était dans un véhicule et on attendait.
On était tout prêt.
On était tout prêt, on attendait, donc on pouvait préparer notre infiltrateur avant. Et ensuite, lorsqu'il revenait, là, on pouvait faire un débriefing, on pouvait savoir ce qui s'est passé. Et ensuite, j'écoutais tous les enregistrements, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était dit.
Vous allez justement nous raconter, alors pas tout, parce qu'après, il faut écouter le podcast, évidemment, mais vous allez nous raconter des éléments importants de ce que vous avez découvert dans cette heure passée ensemble. Lui, on a cru à un moment qu'il avait basculé, qu'il s'était laissé happer dans la spirale infernale de l'endoctrinement sectaire. Une rumeur disait qu'il avait rejoint la secte des enfants du soleil ou des adorateurs du soleil. Ce n'était pas clair. Heureusement, la semaine dernière, la vérité a éclaté au grand jour. C'était juste un quiproquo. Il n'avait pas rejoint la secte des adorateurs du soleil, mais juste la chaîne Point Soleil. D'où cette mine radieuse.
Ça dépend,
cette
ça dépend.
Mine radieuse qui n'était en rien le résultat de la prière ou de l'application de placenta en crème de jour. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Point Soleil.
Évidemment.
Vous avez votre carte.
Une carte membre VIP.
Racontez-nous Cyril, d'où ça sort la scientologie de Ron Hubbard, j'imagine.
Imaginez, oui, un écrivain de science-fiction des années 50, obsédé par les soucoupes volantes, le contrôle de l'esprit et les puissances cachées de l'âme humaine. Un amateur des pulp magazines qui se prend de passion pour les promesses de guérison spirituelle et qui va se dire un jour, tiens, si la science-fiction devenait une religion. Je vous présente Ron Hubbard. Sur ses livres, c'est écrit L.Ron Hubbard, L pour Lafayette, L.Ron Hubbard, prophète autoproclamé de l'église de Scientologie. Mais avant de se glisser dans le costume de gourou, ce brave Lafayette était un auteur et un auteur prolifique, plus de 200 romans et nouvelles.
Alors de quoi il parle dans ses romans ?
Eh bien des petits hommes verts. Ron Hubbard a un imaginaire fertile et tourné vers l'ailleurs. Les extraterrestres donc, mais aussi les civilisations perdues et des histoires de héros capables de dominer la matière par la seule force de l'esprit. Et puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il ouvre un nouveau chapitre de son travail avec un livre, La Dianétique, la science moderne de la santé mentale, livre publié en 1950. Selon Hubbard, chacun peut se libérer de ces engrammes qui empoisonnent son esprit grâce à une nouvelle méthode. Les engrammes, ce sont des souvenirs traumatisants de notre enfance, voire de nos vies précédentes. Le livre devient un best-seller. 4 ans plus tard, L.Ron Hubbard fonde officiellement l'église de Scientologie à Los Angeles. Alors d'où ça sort la Scientologie ? Eh bien de lui, et ce n'est que le début de cette histoire.
Merci Cyril. Gaëtan Pouliot, Ron Hubbard est mort en 86. Combien de membres compte l'Église de Scientologie aujourd'hui à travers le monde ? Est-ce qu'on le sait ?
Mais c'est une grande question et c'est un peu un mystère, parce qu'on ne le sait pas. L'Église de Scientologie, il va dire qu'il y a des millions de membres, des millions de scientologues. Mais lorsqu'on regarde vraiment les chiffres, par exemple dans les recensements au Canada, il y aura autour de 2000 membres seulement. En France, probablement quelques milliers, mais on ne le sait pas combien de personnes sont scientologues. Et il faut faire une distinction, c'est-à-dire quelqu'un qui va se dire scientologue dans un recensement et quelqu'un qui va aller chercher des services dans une Église de Scientologie. Ce sont deux choses. Donc, le membre actif qui se réclame son identité scientologue et ceux qui frappent à la porte pour aller chercher de l'aide. Mais on ne sait pas finalement combien de scientologues il existe.
Quentin ?
Comment elle est organisée ? Il y a un clergé, une hiérarchie, des églises ?
Mais c'est une organisation qui est très grosse. C'est une organisation internationale. Bon, vous venez de le dire, le siège était aux États-Unis, mais l'Église est implantée partout, sur tous les continents. Il y a des églises locales en France, au Canada. Et ce qu'il faut dire, c'est que la scientologie pour être plus précis, c'est un groupe d'organisations.
Ah.
Donc, bien sûr, il y a l'Église de Scientologie qu'on connaît bien, mais il y a aussi des centres de désintoxication. Il y a un réseau d'entreprises. Il y a une commission pour les droits de l'homme, une chaîne de télévision, des magazines. C'est vraiment tout un univers et l'objectif est toujours le même, ce serait de libérer les humains de leurs problèmes. Et il y a une structure un peu pyramidale, c'est-à-dire que si vous donnez de l'argent, vous achetez des services près de Paris, par exemple, il y a une partie de l'argent qui va remonter vers le haut de l'organisation, vers Los Angeles, et vers les États-Unis.
Quand on pense à la Scientologie, on pense immédiatement à Tom Cruise, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que ses membres sont à son image essentiellement donc américains et riches?
Ben, je peux vous dire que les scientologues à qui moi j'ai parlé, avec qui j'étais en contact, n'étaient pas du tout riches. Ce sont des gens qui font pratiquement vœu de pauvreté, qui travaillent. S'ils travaillent à l'Église de Scientologie, ils ont de tout petits salaires. Au Canada, ce sont des salaires qui sont sous le seuil minimal de salaire. Donc, c'est vraiment des petits salaires. Et les services coûtent extrêmement cher. Lorsque vous êtes en scientologie, ça devient votre univers et vous devez monter les étapes, si vous voulez, là, dans cette fameuse échelle pour vous libérer. Et ça te coûte de plus en plus cher. Pour vous libérer totalement, ça peut vous coûter des centaines de milliers d'euros au cours de votre parcours scientologue. Cela dit, il y a quand même quelques scientologues qui ont les poches profondes. C'est une aussi des stratégies de l'organisation, c'est-à-dire aller chercher des vedettes qui vont aider au recrutement ou des gens d'affaires qui vont pouvoir financer des programmes et faire des dons supplémentaires au coût des services qui sont vendus.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
C'est probablement avec les Témoins de Jéhovah la secte la plus connue au monde. Zoom cet après-midi sur l'église de Scientologie. Si des scientologues nous écoutent, d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur mon Insta Mathieu Noël très officiel. Le journaliste Radio Canada. Je ne sais
pas.
Vous pouvez poser des questions, je ne sais pas, mais comme ça on pourra y répondre. C'est vrai que c'est pratique, mais c'est ça la magie du direct. Le journaliste de Radio Canada Gaëtan Pouliot est avec nous, toujours en duplex depuis les studios de Montréal. Il a enquêté sur l'église de Scientologie, en a tiré une série de podcasts. D'ailleurs, Gaëtan, on ne dit pas podcast, on dit balade. Balado, hein, au Québec, il me semble.
Au Québec, on dit balado.
C'est beaucoup plus joli, d'ailleurs, de dire balado. On devrait dire balado aussi. Il faudrait essayer de l'imposer en France. Une série de balados intitulée « Infiltration chez les scientologues ». Est-ce que la scientologie est considérée partout comme une secte, dans tout le pays?
Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une grande question et je vais peut-être vous surprendre parce que c'est pas vraiment une question qui, moi, m'intéresse.
Ah.
Je veux dire, c'est une question qui est intéressante pour les sociologues. Ouais. Mais pour un journaliste d'investigation comme moi, ce qui est important, ce sont les gestes que posent les membres de l'Église de Scientologie. Mm-hmm. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe dans cette organisation. Est-ce que les employés sont sous-payés? Est-ce qu'il y a de l'escroquerie en bande organisée? Mm-hmm. Est-ce qu'on y fait de l'exercice illégal de la médecine, de l'exercice illégal de la pharmacie, ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse.
Et vous avez des réponses à ces questions-là?
Ben, je peux vous dire notamment que pour l'exercice illégal de la médecine, lors de notre infiltration, c'est ce qu'on a réussi à documenter. Donc, notre personnage, que j'ai parlé plus tôt, Pierre, donc cette personne qui se disait bipolaire, qui était suivie par un psychiatre et qui prenait des médicaments, on lui a dit, finalement, les médicaments créent des toxines dans ton corps. Et si tu veux te libérer de tes toxines, tu dois te purifier, tu dois prendre une thérapie à base de vitamines. Et ça, je connais pas les lois en France, mais au Canada... C'est illégal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a un trouble bipolaire de lui dire « tu dois arrêter de prendre tes médicaments et on va t'aider à te sevrer, on va t'offrir une thérapie alternative. Ouais, » C'est de la illégal, pratique illégale de la médecine.
Vous parlez, Gaëtan, d'un très long processus pour intégrer l'Église de Scientologie. C'est long et c'est extrêmement coûteux. Qu'est-ce qui se passe tout au long de cette initiation et pourquoi il faut payer? Alors, je crois comprendre pourquoi il faut payer, j'ai ma petite idée.
Mais au départ, nous, lorsqu'on a envoyé notre personnage dans l'Église de Scientologie, la première étape, si vous voulez, c'est on lui fait passer un test de personnalité.
Ah.
C'est gratuit et ça a l'air inoffensif. Ah. Et donc, on reçoit notre formulaire, on remplit le formulaire et ça sera analysé par une machine scientologue. Donc, on met ça dans un ordinateur et après, on reçoit un graphique et on nous explique quels sont les résultats. Pour notre personnage, les résultats du test étaient catastrophique. Donc, le test indiquait que notre infiltrateur avait des besoins urgents. Ouais. On a même discuté avec notre infiltrateur de ses états dépressifs, de ses états suicidaires. C'était assez troublant comme conversation lorsque je l'ai écouté après coup parler de suicide comme ça, lorsque ce n'est pas un professionnel de la santé ou un proche ou un ami. C'est vraiment quelqu'un dans un bureau d'une église de scientologie. Et bien sûr, la scientologie ensuite a des solutions à vendre. Et c'est une intégration qui se fait tout doucement. Ça peut être assez attrayant au début. On vous offre des cours. Ça peut être des cours de communication pour faciliter votre quotidien. Ça ne coûte pas trop cher, mais ce n'est que le début. Plus vous avancez en scientologie, plus ça va vous coûter cher. On va vous offrir de vous purifier. Donc, je reviens sur cette notion de purification qui est à la base, finalement, du système de l'Église de scientologie. Pour se purifier, ce sont des doses massives de vitamines, des doses tellement massives qu'elles peuvent être néfastes pour le foie à long terme, selon une experte à qui j'ai parlé. Et puis, vous allez passer de longues heures dans un sauna, donc 4 à 5 heures de sauna par jour.
Ah oui,
tous les jours, 7 jours sur 7, pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est un volet qui coûte environ 2 500 $ canadiens, environ 2 000 €. Et il y a d'autres services, il y a des auditions. Des auditions, ça, c'est des thérapies scientologues. Donc, juste pour vous expliquer rapidement, c'est un type de psychothérapie. Donc, un scientologue va vous questionner sur vos problèmes, sur ce qui fait que votre vie est un peu difficile, par exemple. Et on utilise un appareil qui s'appelle l'électromètre. Donc, c'est gros comme une boîte à chaussures. Il y a un cadran avec une aiguille qui flotte de gauche à droite et c'est branché à l'électricité. Vous allez prendre deux cylindres métalliques dans vos mains. Oula. Et avec le petit courant électrique, le scientologue qui vous questionne va regarder l'aiguille. Et si vous avez certaines pensées lors de la séance, l'aiguille va bouger de gauche à droite. Le scientologue, ça va l'aider finalement à vous soigner.
Mais c'est pas des émotions. Il capte les émotions.
Par l'électricité.
C'est-à-dire que l'électromètre, les scientologues croient que l'électromètre peut lire dans les pensées.
Oui,
après ça, on peut. C'est vraiment une croyance. Là. Après ça, la machine ne fonctionne pas. Et la machine est utilisée à plusieurs sources, donc notamment pour les thérapies qui coûtent de plus en plus cher, mais c'est aussi utilisé à d'autres fins, là, notamment des fins de surveillance. Là. On pourrait peut-être en reparler.
Son point commun avec les témoins de Jéhovah, lui aussi passe sa vie à vous importuner dans la rue. La seule différence pour l'instant, c'est qu'il ne demande pas d'argent. Mais pour l'instant, Quentin...
Ça vous ne savez pas.
Mon Dieu, Quentin, c'est vrai, vous êtes le pire d'entre nous, j'avais oublié.
Eh oui.
Quentin, chaque matin, vous faites réagir les passants à notre thème du jour. J'imagine que la scientologie, c'est un thème qui fait beaucoup réagir.
Sortie de RER à Saint-Denis, j'observe le toit du Stade de France qui ressemble définitivement à une soucoupe volante. À quelques rues d'ici se trouve l'église de Scientologie and Celebrity Center du Grand Paris. Le bâtiment tout vitré ressemble à un siège d'une entreprise moderne. C'est ici que je rencontre Claire, 53 ans, chef de projet qui bosse à côté.
La scientologie. Parce que je crois qu'il y a des locaux de la scientologie juste de l'autre côté de la rue.
Une espèce de gros bâtiment vitré là.
Oui, c'est énorme.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent en fait, en tout cas pour construire un bâtiment, enfin construire, être propriétaire ou locataire d'un bâtiment si important ici alors que c'est une secte. C'est effectivement un petit peu dérangeant d'avoir pignon sur rue tout en étant déclaré comme une secte.
Il est pas moche le bâtiment en plus.
Non, il est pas moche.
Je vais essayer de rentrer, je vois ce qu'ils vont me dire.
Ah bah bon courage. Avec le micro France Inter, bon courage.
Elle ne s'était pas trompée. Je passe le portail et au milieu de l'allée qui mène vers l'entrée principale, il y a ce petit panneau sur tréteau avec en gros écrit dessus Curious et juste en dessous un QR code pour les curieux qui peuvent scanner en passant devant. Je passe le portique, je découvre le coin librairie où toute l'œuvre de L. Ron Hubbard est exposée en rayon. À droite, c'est l'accueil où on me fait bien comprendre que sans rendez-vous, je ne vais pas obtenir de réponse et je n'ai absolument pas le droit de tourner. Je ressors et je rencontre Cyril.
Scientologie. Secte.
Ok. Ouais. On fait une émission là-dessus.
Tom Cruise, que c'est une secte, une religion, une nouvelle religion, mais qui est tendance sectaire.
Comment il explique, lui, que les gens peuvent tomber là-dedans, ici, en France ?
Les gens ont besoin de repères, parce qu'ils sont plus sur les repères traditionnels, on va dire.
C'était quoi, les repères traditionnels ?
Oh, ben, je sais pas, la démocratie, voilà, la République, la laïcité, voilà.
Et donc ça, on n'est plus là-dessus ?
Bah, de moins en moins, j'ai l'impression.
Donc on se replie sur ce genre de...
Oui.
À force de ne plus croire en la République. Je vous présente Michel maintenant, 69 ans, cravate à motif marron sur une chemise rose, costume beige et manteau par-dessus. On dirait un personnage d'une série télé des années 80.
Ça me rappelle, je vais vous raconter une histoire qui va vous plaire. Moi, je m'intéresse à tout. Et un jour, je voulais savoir ce que c'était la scientologie.
Oui.
J'étais avec un copain, on part en vacances, on fume des pétards. Je lis le bouquin, j'y comprends rien. Et comme je suis un naïf, j'y retourne. Et le mec me dit, mais c'est pas grave, vous n'avez pas compris. C'est dans le 17e. Et ils me mettent devant une télé et je comprends tout. Et ça commence à me faire flipper, donc je sors. Le mec dit, non, non, vous partez pas.
Ah oui, non, parce qu'une fois qu'on est dedans, on vous laisse pas partir comme ça, on a des choses à vous vendre. Donc voilà Michel, embarqué par un vendeur de l'église scientologique.
On va vous vendre des cours. Alors je dis, bon, bah, je vais écouter, j'irai pas. Bon, comme ça, ils vont me lâcher. Alors, le mec, il me regarde dans la ligne, il me dit, vous buvez? Alors, je dis, non, le soir, j'avais bu avec des copains. Vous fumez? Non, non. Et le mec me pose cette question que je trouve géniale. Je suis dans une petite salle et il me dit, qu'est-ce que vous voulez changer chez vous? Et comme je suis un mec hyper superficiel, j'ai cherché. Et j'ai dit, peut-être un peu d'abdos, parce que je suis un peu gros. Mais qui me dit, alors il cherchait dans son bouquin, ça y était pas. Il cherchait dans son bouquin, il pensait que j'avais un problème avec mon ex, ou que j'avais un problème de boulot. Hein, en fait, il s'est dit, ça c'était pas dans son livre.
Ah oui, à la question, qu'est-ce que vous voulez changer chez vous? La réponse de Michel, avoir un peu plus d'abdos. J'adore. Est-ce que ça aurait fait bugger les premières séances? Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais remis les pieds. Steven bosse dans la logistique à Saint-Denis, il découvre...
La scientologie.
La scientologie.
La scientologie, t'as dit?
Scientologie.
La scientologie.
C'est quoi?
C'est pas bien. Tout ce qui est secte et tout, c'est pas bien. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Moi, je suis pas dans tout ça. Je sais que c'est un milieu où c'est un peu bizarre. Moi, le peu que j'ai entendu parler, c'est un peu bizarre.
Tu peux me dire ce que t'as entendu, justement?
Ben, en gros, les gens, ils se mangent. Déjà, faut pas en parler.
Et les gens se mangent.
Ils se mangent comment, Quentin?
Je ne sais pas, Gaëtan, si vous avez observé une quelconque forme de cannibalisme, mais le fait que les scientologues cachent leur site, forcément, ça crée des fantasmes. Ma dernière rencontre n'est pas fan du concept.
Un petit peu, j'ai souvenir d'avoir vu un documentaire, mais il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, sur l'espèce de taré qui a créé ça. Ça me fait penser quand même à une vaste arnaque. Je pense forcément à Tom Cruise.
Qui est quand même pas le genre de mec qui doit se faire arnaquer tous les 4 matins, quoi.
Ouais, mais qui a l'air un peu cinglé. Hein.
Ah, alors c'est pas faux. Une petite folie dans l'œil, mais bon, c'est ça, on s'en moque un peu finalement. Il poursuit sur Tom Cruise.
Bah lui, c'est la vitrine, donc lui, je pense pas qu'il se fasse arnaquer dans l'affaire. Il doit, je sais pas ce qu'il en tire.
Ça l'empêche pas de faire sa carrière, ça l'empêche pas de.
C'est vrai.
Au contraire, hein, j'ai pas l'impression qu'il est baissé.
Non, ça lui a pas nuit, ouais, c'est bizarre.
Et ouais, dans la rue, tout le monde y projette quelque chose. Pour certains, la scientologie, c'est un mystère opaque. Pour d'autres, un simple business. Et pour beaucoup, une secte. Un peu acceptée, installée comme si de rien n'était. Et forcément, au détour d'une phrase, Tom Cruise revient toujours un peu dans la conversation, comme si, à lui seul, il validait que c'était OK d'appartenir à ce qui est considéré quand même en France aujourd'hui comme une secte. Alors cette question, faut-il dissocier le scientologue de l'artiste?
Merci Quentin. Gaëtan Pouliot, toujours avec nous depuis le Canada. Michel nous raconte, non sans humour, ses premières séances et on lui demande ce qu'il voudrait changer chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres rites? Ça se passe toujours de la même manière, la personne infiltrée que vous avez envoyée. Est-ce que vous savez si ça se passe toujours comme ça?
C'est-à-dire que la scientologie fonctionne de la même manière partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le fondateur, L. Ron Hubbard, c'est lui qui a jeté les bases de la scientologie et il est mort en 86, donc ça ne bouge pas. Plus,
c'est
ça
figé,
ne bouge presque
ouais.
plus. C'est figé, donc vraiment les étapes sont là, son système est en place, donc que vous soyez à Los Angeles, à Montréal ou à Paris, ça fonctionne de la même manière. Vous entrez dans l'organisation, on vous fait votre test de personnalité et ensuite on vous offre des services, des cours, des auditions, donc des séances de thérapie et on va vous purifier aussi si vous l'acceptez. Donc ce sont les étapes que j'avais entendu parler par mes différentes sources et c'est ce qu'a vécu Pierre, notre infiltrateur. Et tout ça, ce qu'il faut dire, c'est que c'était basé sur un véritable parcours d'une véritable personne. Donc, à l'origine, j'ai rencontré cette personne, une source confidentielle, et son témoignage m'avait vraiment bouleversé. C'est une personne qui a eu recours au service de la scientologie au Canada, car elle était à la recherche de l'aide. J'écoutais les personnes tout à l'heure dans votre micro-trottoir. Pourquoi aller en scientologie? Ben, les gens, ils cherchent de l'aide. Ils ont un mal-être, et parfois, la médecine traditionnelle ne répond pas à leurs besoins. où c'est difficile d'avoir accès à un psychologue ou à un psychiatre. C'est le cas au Québec, c'est le cas au Canada.
Mmh. Et donc, Gaëtan, vous faites référence à la personne que vous avez appelée Calcium, c'est ça, dans votre podcast, une personne qui souffre de bipolarité. Comment elle est tombée dans la scientologie, justement?
Donc exactement, Calcium, c'est le nom de code que j'ai donné à cette source confidentielle. Et Calcium avait un mal de vivre, si vous voulez, un trouble bipolaire. Elle était médicamentée, mais elle trouvait que les médicaments ne faisaient pas tout à fait effet. Et cette personne avait entendu parler de Tom Cruise. Mmh. Et avec un ami, ils sont entrés dans l'église de Scientologie. Et ce qui s'est passé, c'est troublant parce qu'on lui a dit finalement que ces médicaments de prescription, ces médicaments psychotropes, finalement, ce qui influe sur le cerveau, ça créait des toxines, qu'il fallait s'en débarrasser, qu'il fallait se purifier. Ce qui est très important, c'est que la scientologie se veut une alternative à la médecine psychiatrique. C'est dangereux et cette personne Calcium, donc, a cessé de prendre ses médicaments. Elle a été sevrée, si vous voulez, mais elle était supervisée non pas par un médecin, mais par un scientologue. Et en plus, un scientologue qui travaillait dans un garage de mécanique automobile. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était troublant. Et Calcium m'a aussi expliqué qu'au final, pour se purifier, il fallait avoir l'autorisation d'un médecin. Et ce qui est assez surprenant, c'est que au Québec, au Canada, les médecins n'ont pas le droit de faire ça. Un médecin, c'est une faute déontologique.
Comment on trouve un médecin qui le fait? C'est ça qui est troublant.
L'Église de Scientologie recrute des médecins pour qu'ils collaborent avec eux.
Des médecins payés par la Scientologie.
Il y a un système. Par exemple, notre infiltrateur, Pierre, a eu un rendez-vous avec un médecin collaborateur qui connaissait la purification et il est arrivé pour, justement, se faire signer un formulaire. Et dans notre cas, dans notre infiltration, le médecin voulait avoir de l'argent cash, de l'argent liquide pour une supposée organisation caritative pour aider Haïti. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne le sais pas, mais il y avait de l'argent en cash. Notre infiltrateur avait dans ses poches près de 400 $ canadiens, autour de 300 euros pour payer le médecin. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à découvrir aussi dans notre enquête.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Vous connaissez Tom Cruise en Ethan Hunt dans Mission Impossible. Vous connaissez Tom Cruise en Maverick dans Top Gun. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la vraie vie, Tom Cruise est OT7 dans la hiérarchie de Scientologie qui en conduite OT comme Operant Tiffen, je ne sais pas. Preuve, comme il lui reste encore un grade à franchir, qu'il a progressé moins vite dans l'église de Scientologie que dans le cinéma, et pourtant, il en aura bouffé du placenta. Bon appétit à ceux qui entament leur goûter. En tout cas, une chose est sûre, son grade d'OT7 a permis à Tom Cruise d'accéder à l'enseignement véritable de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, qui réserve le cœur de sa philosophie au grade OT3 et supérieur. Jouons donc avec deux OT0 au Zoom Zoom Test.
Qu'est-ce que vous en savez ?
C'est vrai que je ne sais pas, je ne connais pas votre vie privée. On va le voir tout de suite. À la découverte des enseignements les plus étonnants de la Scientologie. Je vous préviens, même la Marianoche, qui pourtant a visité à peu près toutes les dimensions parallèles possibles avec la quantité astronomique d'ayahuasca qu'elle s'est mise dans le cornet lors de son voyage initiatique au Mexique, même elle n'est pas prête pour le degré de délire qui nous attend dans ce qui est la pierre angulaire de la foi scientologue, la légende de Xenu, et non pas de Jimmy, Quentin. Je tiens à signaler que toutes les infos qui vont suivre, aussi barrées soient-elles, sont devenues publiques grâce aux témoignages d'anciens membres et aux documents versés au procès intenté contre l'église de Scientologie. Alors on y va. D'après ce bon vieux Ron, Xenu était le dictateur d'une confédération galactique il y a 75 millions d'années. Le gros dos à gérer pour Xenu était la surpopulation avec une moyenne de 178 milliards d'individus par planète et autant de foyers de rébellion. D'après vous, quelle solution a été trouvée par ce génie du mal pour y remédier ? Les détruire, tous ces gens, grâce à sa semence toxique, coquin et efficace, les envoyer sur Terre pour les jeter dans des volcans, compliqué mais radical, ou les transformer en anges spatiaux en leur faisant boire la potion de l'amour. Vous, c'est la potion de l'amour qui
boue. Hein, oui. Bah, si elle a l'alcool.
Moi, je veux dire B.
Dans la potion d'amour, il n'y a pas d'alcool dedans.
B.
Voilà, les envoyer sur Terre pour les jeter dans les volcans ?
Ouais.
Oh, Quentin, c'est une bonne réponse. Oui, tout à fait. Une sorte d'OQTF de l'espace. Bruno Retailleau serait-il un scientologue qui s'ignore ? Oui, pour solutionner le problème de la surpopulation galactique, Xenu, qui avait visiblement le même dealer que Manon, a préconisé qu'on jette les gens dans des volcans. Mais comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comment a-t-il fait techniquement pour attraper des milliards d'aliens et les envoyer sur Terre ? En les attirant sous prétexte d'un contrôle fiscal intergalactique, grâce à des psychiatres extraterrestres et une petite picousse d'alcool, ou en balançant tout le monde dans des vieux avions pour les jeter dans des volcans et tout faire péter avec des bombes à hydrogène.
B.
C, du coup.
Alors accrochez-vous bien, mes petits agneaux.
C.
Je vous donne une autre opportunité.
Les trois,
évidemment. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos, et c'est pour ça que seuls les êtres d'exception comme Tom Cruise peuvent les assimiler. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que Quentin ne serait pas tombé dans le panneau, puisqu'il ne se rend jamais à aucune convocation fiscale. Donc, on résume.
Je n'ai pas été convoqué.
Oui, bien sûr.
Pas encore.
Ça va forcément arriver.
Monsieur oui, Cheval arrive bientôt.
Préparez-vous, cachez les tableaux. Xenu balance.
On n'est pas chez vous. Hein.
J'ai pas de tableau chez moi. Xenu balance la plèbe de la galaxie dans les volcans terrestres, fait tout péter à la bombe H, ça libère des âmes des sacrifiés, les fameux tétons, que Xenu récupère ensuite, j'ai envie de vous dire évidemment, avec son ruban électronique. Et là, c'est pas fini le délire, il les fout dans une salle de cinéma pour leur monter le bourrichon en projetant des films de propagande. Et depuis lors, les tétans polluent les consciences de tout le monde, sauf des scientologues. Xenu a monté un centre d'appel pour les travaux de rénovation énergétique, où Ron Hubbard s'est fait des couilles en or avec le pitch le plus pourri de la science-fiction.
C et A.
A et C.
J'ai dit les deux.
C et A. Ah oui, même.
Ah mais quoi
Manon a été plus rapide.
Ah,
elle a dit
oui,
C. Oui. Bravo.
Je comprends pas, non.
C'est Julien Lepers en personne qui vous félicite, vous l'entendez.
Merci,
c'est pas
Julien.
Rien, c'est pas rien. Alors, il aurait pu faire plus simple, hein, Ron Hubbard, genre je me suis fait enlever par les éolimes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on devient OT3, on est enfin débarrassé des tétans. Mais si, les tétans. Concentrez-vous, Manon. Les tétans,
les
âmes.
Elle est pas concentrée.
C'est vrai.
Moi, je veux bien tout.
Alors que vous, Quentin, je vois que vous buvez mes paroles.
Je ne vous lâche pas.
Ah,
mais c'est bon, t'as gagné.
Alors, les tétans, c'était qui les tétans? C'est les âmes toxiques des mecs qui se sont fait bombarder dans les volcans, vous vous souvenez?
Oui, bien sûr.
Évidemment. Eh bien, elles sont partout. Si ça se trouve, il y en a dans le studio. Je ne regarde pas Pierre Courade par hasard. Et si elles s'agrippent à vous, vous devenez triste et déprimé. Sauf si la scientologie vous sauve. Voilà. Je vous laisse décider en votre âme et conscience quoi faire. Mais tout ce que je sais, c'est que Tom Cruise, il fait des cascades à 300 km/h. Il reste pas à moisir dans la salle d'attente de son psy. Alors vous me direz, pourquoi faut-il attendre d'être assez gradé chez les scientologues pour connaître l'histoire de Xenu? Eh bien c'est très simple, vous pensez quand même pas que Ron va vous lâcher des infos si précieuses gratuitement. Non, il faut déjà lâcher quelques dizaines de milliers d'euros pour être libéré de ces premières toxines de l'espace, parce que sinon on risque quoi si on se libère pas de ces toxines? De passer pour un con? D'être transformé en cafard? Ou est-ce qu'on risque pas d'attraper une pneumonie?
Oh là, A et C?
B et C?
Il n'y a qu'une seule réponse.
Juste C.
Juste, c'est une bonne réponse de Manon. Donnée au hasard, une fois de plus.
On passe un peu pour un con si on a encore plein de toxines.
C'est pas fou. Vous avez raison, Quentin. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça, c'est vous qui apportez la mise. Vous avez raison. J'avais mal préparé cette partie-là. Cerise du nawak sur le gâteau du what the fuck. Les personnes ayant atteint le niveau OT3 doivent signer un accord. Ils doivent signer un accord s'engageant à ne jamais en révéler le contenu avant de recevoir l'enveloppe qui contient la connaissance de Xenu. Car cette connaissance est si dangereuse que quiconque découvre ce sujet pourrait contracter une pneumonie. C'est ça qui avait dû arriver à Cyril quand il toussait comme un mourant entre octobre 2022 et avril 2023. Oui. Il avait ouvert la lettre de Xenu trop vite. Défaite du cartésianisme et victoire triomphale de Quentin qui a...
Triomphale. Non,
ça va pour
triomphale.
Une fois.
Triomphale.
Et pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, on a appris une information supplémentaire dans ce quiz, c'est que Manon pensait que Julien Lepers était décédé.
Non,
alors, on l'embrasse, il nous écoute souvent. Et
oui.
Il est en pleine forme,
non,
en pleine bourre. Il explose.
Oui.
J'ai juste posé la question.
Revenons à nos petits moutons. Le journaliste de Radio-Canada, Gaëtan Pouliot, est toujours avec nous en duplex depuis les studios de Montréal pour son enquête sur l'église de Scientologie dont il a tiré, je vais y arriver, une série de podcasts, Infiltration chez les scientologues. Et Gaëtan, pour infiltrer la Scientologie, vous n'avez donc pas hésité à braver tous les dangers puisque vous avez fait appel à un stagiaire de Radio-Canada, Pierre, pour jouer le rôle, on s'imagine qu'il s'appelle pas Pierre, pour jouer le rôle d'un futur adhérent. Est-ce qu'à un moment, je comprends que les portes se fermaient, que la scientologie n'accepte aucune interview, mais c'était pas un peu dangereux de faire ça?
Dangereux, je dirais pas dangereux, mais c'était très stressant. C'est-à-dire qu'une fois que Pierre était à l'intérieur de l'organisation, on ne savait pas ce qui se passait et il s'est passé des choses très étonnantes. Et je vais vous donner un exemple parce que la scientologie est très méfiante envers les médias. Mmh. Elle est très méfiante envers toute personne qui pose des questions qui pourraient déranger, si vous voulez. Mmh. Donc, au cours du parcours de Pierre, Pierre a dit qu'il voulait arrêter de prendre ses médicaments de prescription, qu'il voulait être purifié, et on lui a dit « D'accord, mais il y a un processus, il y a des formulaires à remplir, tu dois revenir un mardi soir pour passer une entrevue. » Une entrevue. Donc, pas de problème, on se présente, on se déplace, on met les micros cachés, les caméras cachées. Mais à l'intérieur, ce qui s'est passé, c'était assez exceptionnel. En fait, ce n'était pas une entrevue, c'était un interrogatoire. Mmh. Donc, ce que les scientologues appellent une vérification de sécurité.
Ah oui.
Pierre était dans une salle, on lui avait dit de se départir de son téléphone cellulaire, bien sûr, mais ses caméras étaient fonctionnelles. Et on l'a branché sur le fameux électromètre. Donc, cette machine qui sert sert à faire des thérapies scientologues. Ça sert aussi à faire des vérifications de sécurité parce que ça sert de détecteur de mensonges.
Ah, okay.
Donc, Pierre était installé devant une scientologue et on le questionnait. Et bien sûr, la personne qui se fait questionner ne voit pas le cadran, ne sait pas où va l'aiguille. Est-ce
qu'il
dit la vérité
ou non? Est-ce qu'il est détecté ou pas,
oui. Et voilà. Et alors, on demandait à Pierre, est-ce qu'il était là pour enquêter la scientologie? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il connaissait quelqu'un qui enquêtait la scientologie, qui investiguait la scientologie? Donc, un paquet de questions comme ça pour savoir s'il était là, finalement, pour causer des problèmes à l'organisation. C'était vraiment une vérification de sécurité, là, pour dire si toi, t'es ici pour faire un problème, on va t'expulser, finalement.
Oui, Gaëtan, alors, avec beaucoup moins de succès et beaucoup moins de réussite, je me suis approché de l'église de scientologie. j'ai quand même croisé des gens, ils étaient pas très contents que je sois là, parce que j'avais le micro, on voyait le micro. J'ai quand même croisé quelqu'un qui venait donner des cours particuliers à des enfants. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces bâtiments?
On à des enfants, aussi... vous dites?
Oui.
Oui, ben, y a plein de salles de cours. Donc, y a des cours de communication, comme je vous disais tout à l'heure, comment organiser ses finances personnelles, comment mieux être avec une autre personne, ne pas être gêné. Donc, oui, les scientologues ont aussi une branche, si vous voulez, pour aller dans les écoles. Donc, le fait qu'il y ait des enfants ne m'étonne pas. Souvent, les scientologues vont intégrer leurs enfants à l'organisation. Et donc, vraiment, à la base, les cours sont un peu inoffensif, si vous voulez. Mais quand on monte dans l'organisation et que le contrôle, parce qu'il y a tout un système de contrôle dans l'organisation qui va être mis en place petit peu par petit peu, on va faire des vérifications de sécurité avec l'électromètre. Donc ça, c'est qu'une étape. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que, à ma connaissance, nous avons enregistré la vérification de sécurité, on a filmé la vérification de sécurité, et ça, c'est une première dans le monde.
Ouais. Vous écoutez France Inter, et comme vous n'êtes pas au T3, je ne peux pas vous révéler ce secret bien gardé qu'on appelle l'heure qu'il est. L'heure de découvrir en tout cas la pièce jointe de Manon Mariani.
Un acteur.
Oh, quel acteur.
Compliqué de le détacher de cette musique iconique, celle de Mission Impossible, car je vais évidemment vous parler de l'un des scientologues les plus connus au monde qu'on a évoqué durant cette émission, Tom Cruise. Il naît en 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, dans une famille modeste et catholique. Il grandit avec une mère très présente et un père qu'il décrira plus tard comme violent. À 18 ans, il quitte l'école et part tenter sa chance à New York, puis à Los Angeles. Très bon choix, puisqu'en quelques années, il devient l'une des plus grandes stars du cinéma américain, Risky Business, Top Gun, Rain Man. Né un 4 juillet, Tom Cruise est l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Mais en 1987, il fait la rencontre de Mimi Rogers, sa première épouse, membre de l'église de Scientologie. C'est elle qui l'initie aux méthodes de l'organisation. Tom Cruise explique qu'il y trouve les outils pour surmonter sa dyslexie et reprendre confiance en lui. Mais ce qui au départ semble être une démarche de développement personnel va rapidement devenir un engagement beaucoup plus profond. Dans les années 2000, Tom Cruise devient l'un des ambassadeurs les plus visibles de la scientologie. Il apparaît dans des vidéos où il explique que c'est un privilège d'être scientologue. Il participe à des événements officiels, soutient publiquement certaines de ses positions, notamment contre la psychiatrie et les antidépresseurs, on en parlait. Il profite même de la promotion de son film Le Dernier Samouraï pour en parler ouvertement. Pendant le tournage après De la Guerre des Mondes, il va aussi tenter de recruter Steven Spielberg qui réalisait le film. Il va totalement ruiner la promotion du film à cause de ça, et les deux ne vont plus se parler pendant des années. Ça se répercute aussi évidemment sur sa vie privée. En 1990, il épouse l'actrice Nicole Kidman, avec qui il adopte deux enfants. Leur divorce en 2001 laisse place à de nombreuses interrogations sur l'impact de l'Église dans leur séparation. Kidman dira plus tard ne jamais avoir souhaité s'impliquer dans la scientologie, mais ses deux enfants, eux, y sont restés. Quelques années plus tard, Tom Cruise se marie avec Kathy Holmes, qu'il recrute dans l'église de la scientologie. Mais en 2012, elle demande le divorce et la garde exclusive de leur fille Souris. De nombreux médias américains affirment que la scientologie a joué un rôle central dans cette rupture. Aujourd'hui, Tom Cruise reste l'un des membres les plus importants de la scientologie. Il participe à certains rassemblements officiels et demeure un allié stratégique de l'organisation. Parallèlement, il continue de dominer le box-office mondial avec Mission Impossible ou Top Gun, tout en gardant sa vie, il faut le noter, religieuse, beaucoup plus discrète qu'auparavant.
Effectivement, il est plus discret. Merci Manon.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À force de le suivre sur Instagram, j'ai fini par cerner ses deux passions, le Cap Vert et Vincent Niclot.
Oh non.
Vincent Niclot, dont la prestation démente l'autre jour pour l'ouverture du BHV, lui avait tiré des larmes. C'est pourquoi je suis en mesure de l'annoncer pour son anniversaire. Le 9 février prochain, Vincent Niclot viendra lui chanter All By Myself en studio. Ah ouais. Ici.
Avec
les cœurs de l'armée rouge, parce que rien n'est trop beau pour Pierre Courade. Pierre, en attendant ce grand jour, résumez, oui, parce que vous aurez 47 ans ce jour-là.
Non.
Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur la scientologie en une minute chrono.
Sincèrement, cette perspective me fout les poils, Mathieu. Au moins autant que l'église de scientologie dont on a parlé aujourd'hui avec le journaliste de Radio-Canada Gaëtan Pouillotte. Notre invité enquête sur l'organisation depuis près de 15 ans. Il a même infiltré, enfin, pas lui hein, directement, mais son stagiaire. Chez nous, les stagiaires apportent des verres d'eau à des sociologues du CEVIPOF au Québec. Ils infiltrent l'une des plus puissantes sectes du monde. Désolé, Péné. Il faut dire que, fort de son expérience, notre invité sait que les membres de la scientologie ont interdiction de répondre aux journalistes. Il nous a quand même expliqué que l'église de scientologie était en fait un groupe d'organisation. Il y a des centres de désintoxication, des médias, un système judiciaire. On ignore précisément combien de membres elle compte. En revanche, ce que notre invité a découvert, c'est que la scientologie attire des personnes généralement en perte de repères, de la classe moyenne, voire populaire, qui vont pourtant payer des centaines de milliers d'euros afin de se libérer d'un trouble, se purifier dans le langage scientologue. Rassurez-vous, pour la scientologie, tout le monde a un trouble qui mérite de se délester de toutes ses économies pour le soigner. Le stagiaire de notre invité a inventé une bipolarité, par exemple, et malgré plusieurs étapes pseudo-scientifiques, aucun scientologue n'a débusqué le subterfuge. Ils lui ont demandé d'arrêter son traitement médical et ils lui ont prescrit de prendre des vitamines au-delà de la dérive sectaire. L'exercice illégal de la médecine est donc ici flagrant, en plus de l'emprise. Voilà en résumé ce que représente l'église de scientologie.
Mais Pierre, je crois qu'il y a quand même un élément dans la scientologie qui vous plaît, c'est le fait de fréquenter les saunas, je crois. Ça c'est quelque chose que vous ne diriez pas non, peut-être.
Il y a aussi ça, effectivement.
Plusieurs heures par jour.
Quatre heures de sauna par jour, ça peut être très fatigant. De même que les écoliers tremblent quand le prof rend les copies, nous frémissons. Quand arrive, chaque vendredi, François Rollin, la mine grave, Quentin dirait même patibulaire s'il connaissait le mot. Oh. Bonjour François.
Bonjour Mathieu. Panorama de la semaine. Lundi, votre sujet était « Relecture balistique de la bataille de Gravelotte ».
Pas du tout.
S'il vous plaît, Mathieu. En compagnie du colonel de gendarmerie Lucien Baronchon, expert en balistique. Vous vous êtes donc longuement étendu sur cette bataille de la guerre franco-prussienne, bataille datée du 18 août 1870, et vous vous êtes étendu non pas pour nous dire, ce qui aurait été relativement intéressant, que c'est de cette bataille que vient l'expression populaire « il pleut comme Gravelotte », mais pour évaluer l'influence du vent mosellan sur la trajectoire des projectiles utilisés ce jour-là en fonction du poids en grammes des 10 projectiles. C'était assommant, macabre et stupidement spéculatif, pour ne pas dire casse-bonbon. Mardi, vous avez traité le sujet « Usage et mésusage de l'article de notoriété contracté ».
Mais absolument pas. Mais
s'il vous plaît,
ça,
Mathieu,
c'est n'importe quoi.
Mathieu, vous avez 10 heures de temps de parole hebdomadaire. Je disais donc, vous avez traité mardi « Usage et mésusage de l'article de notoriété contracté » en compagnie du linguiste et grammairien Joseph Tarka Malherba. Vous nous avez rappelé que l'article de notoriété, c'est le de Le Tintoret, le Caravage, le Corbusier, le Lorrain, le Titien, le Bernin, pour n'en citer que quelques-uns. Et vous nous avez longuement expliqué que cet article de notoriété doit parfois être contracté et que parfois il ne doit pas l'être. Vous nous avez donc rappelé qu'on parlera d'une exposition du Tintoret et non pas de Le Tintoret et qu'à l'inverse, on ne dit pas un immeuble du Corbusier, mais un immeuble de Le Corbusier. De la même façon, avez-vous ajouté, on parlera d'un catalogue raisonné du Bernin et non de Le Bernin, de la peinture du Caravage et non de Le Caravage. En ce qui concerne Titien, avez-vous encore précisé l'usage hésite entre un tableau de Titien et un tableau du Titien. Vous avez ainsi analysé une soixantaine d'articles de notoriété et on a bien compris que vous n'êtes pas allé au-delà, c'est uniquement faute de temps. Mathieu, c'était barbant, répétitif, fastidieux pour ne pas dire saoulant. Mercredi, déclinaison culinaire de la fleur de courgette en 33 idées régionales. Avec le chef Cyril Bieff et son restaurant 2 étoiles à Cogolin, totalement indigeste.
Il n'y a pas de resto 2 étoiles à Cogolin, je te rassure.
Jeudi, Andrei Gromyko, un diplomate oublié. Portrait de celui qui fut pendant 28 ans ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, en compagnie de Serge Benizio, professeur de géopolitique à Sciences Po Paris. Chiant à mourir. Aujourd'hui, vendredi, les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel, mathématicien autrichien naturalisé américain, avec Charlotte Wilson, professeur de danse country à Bourg-la-Reine. complètement incohérent et déjanté. Et voyez ce qui est pathétique, Mathieu, au-delà de ce panorama accablant, c'est que vous n'êtes même pas capable de faire amende honorable et de présenter des excuses. Votre seul système de défense est le déni grossier, le refus têtu de reconnaître que vous avez tout bonnement merdé et puis vous avez poussé le vice et la fourberie jusqu'à essayer de m'empêcher de parler. Eh bien, vous savez, il y a des vendredis où je me demande à quoi je sers.
Ben, moi, je vais vous dire à quoi vous servez, François, à me donner des idées, parce que déclinaison culinaire de la fleur du courgette en 33 idées régionales, je pense que ça peut nous faire 2 heures la semaine prochaine. Merci François Rollin, on se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Un grand merci à vous Gaëtan Pouliot de nous avoir éclairé sur la scientologie. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio-Canada, vous étiez d'ailleurs avec nous en duplex de Montréal, et je rappelle évidemment, pour aller plus loin, votre série de podcast, de balado bien sûr, Infiltration chez les scientologues, c'est absolument édifiant. Merci encore. Vous ne bougez pas, toute l'équipe revient après le journal de 17h en mode zoom zoom back. Aujourd'hui, un immense saut dans le temps direction la jeunesse de Cyril Lacarrière. Tous les garçons et les filles de mon âge. 1963, Cyril fantasmait devant le Scopitone de Françoise Hardy. Et de l'autre côté de l'Atlantique, un président était abattu dans les rues de Dallas. Rarement un événement aura inspiré autant de théories, de fantasmes et surtout de fictions. On revient sur l'assassinat de Kennedy et tout ce qu'il a engendré. Zoom Zoom Zen.